Donc Madame Carotti, inspectrice générale, et Monsieur Tarlet, inspecteur général du groupe enseignement primaire, vont vous faire une présentation. Madame Carotti, vous étiez déjà intervenue lors des assises de l'école maternelle en mars 2018. L'objet de l'intervention porte sur un rapport. Le point de départ, c'est un rapport qui avait été établi entre l'inspection générale de l'administration LIGA et l'inspection générale de l'éducation nationale sur les ATSEM. De ce rapport et dans la suite de ce rapport sont nés un décret évoqué par le directeur de l'enseignement scolaire sur les ATSEM, et de faire un point sur, au travers de cette intervention, sur l'intervention des ATSEM, sur le rôle de chacun, sur le rôle des collectivités territoriales et sur les moyens de piloter. Voilà, je vous remercie de votre intervention dans un emploi du temps que je sais fort contraint.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Juste peut-être une petite précision, d'ailleurs on le voit sur mon chevalet, donc moi je ne suis pas inspectrice générale de l'éducation nationale du groupe premier degré, mais du groupe sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre. Effectivement, j'étais intervenue aux assises de la maternelle, mais le discours que nous allons porter à deux voix montre déjà bien cette synergie. Ma place ici, c'est parce que je travaille sur le CAP, donc petite enfance, qui a été rénové, qui est devenu CAP accompagnant éducatif petite enfance. Et donc ce travail en partenariat, en synergie avec le groupe premier degré, il maintenant date un peu, puisque nous avons sollicité nos collègues du groupe inspection générale du premier degré pour aller à la rencontre de l'ensemble des professionnels que nous sollicitons dès lors que nous rénovons un diplôme, pour identifier à la fois les activités et les compétences des professionnels que nous allons former. Donc c'est à ce titre aussi que je me réjouis d'intervenir devant vous. J'ai plutôt l'habitude d'intervenir face à des inspecteurs du second degré, mais peut-être que là aussi, en termes de collaboration au niveau des académies, c'est peut-être un rapprochement avec les IEN qui ont en charge le pilotage de ce diplôme, les IEN sciences biologiques, sciences sociales appliquées, vous connaissez certainement l'acronyme SBSSA, seront aussi peut-être précieux dans les réflexions que vous allez mener en académie. Donc merci à vous de m'accueillir.
Merci Sabine. Donc mon nom apparaît dans le bas de la diapositive. Je suis inspecteur général appartenant au groupe enseignement primaire. Et voilà, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je connais un certain nombre de gens dans la salle qui me ramènent à une vie antérieure. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir ce matin devant vous essayer de présenter donc les enjeux de ce séminaire, puisque, si vous le permettez, j'attaque directement, puis on va faire à deux voix en alternant notre prise de parole. Donc, effectivement, le titre ou l'intitulé de ce séminaire, c'est « Favoriser les apprentissages au service de l'épanouissement et du langage ». En réalité, j'oserais dire plutôt « assurer et garantir ces apprentissages », parce que, comme vous le savez, il y a une relative urgence à le faire. Tous les déterminants de la réussite ou de l'échec sont présents dès la prime enfance, on le sait bien, et juste un chiffre qu'on évoquera tout à l'heure, et d'ailleurs le directeur général l'a rappelé, un seul chiffre, 80% des décrocheurs de plus de 16 ans avaient des difficultés significatives pour l'entrée dans la lecture et l'écriture en classe de CP. C'est vous dire que ce déterminant de l'échec existe dès l'école maternelle et qu'il faut évidemment comprendre à plusieurs ce qu'il se passe. Alors, il n'y a pas d'un côté l'école, de l'autre côté d'autres experts de la petite enfance. Il y a des professionnalités, il y a des métiers qui méritent d'être connus par leurs détenteurs réciproques, par leurs acteurs réciproques. C'est comprendre, connaître et finalement respecter la professionnalité de l'autre pour pouvoir assurer ces apprentissages qui sont déterminants dès l'école maternelle. Alors évidemment, faire se rencontrer deux cultures professionnelles, harmoniser évidemment ces gestes professionnels au bénéfice des petits-enfants, ben tout ça s'inscrit dans un contexte qui prend un sens plus que jamais essentiel aujourd'hui, le directeur général l'a rappelé, c'est celui de la loi sur l'école de la confiance, évidemment. L'école n'est plus, je le dis souvent, l'école n'est plus ou n'a plus les moyens d'être son propre recours. Aujourd'hui, elle ne peut plus faire seule, elle ne peut faire qu'avec une coopération renforcée et intelligente avec les élus, les familles, les autres services de l'État et tous les partenaires sur un territoire donné. Voilà pourquoi, quelle que soit sa place dans les institutions que vous représentez dans cette salle et qui sont dans tous les territoires, voilà pourquoi il faut apprendre à se connaître pour agir ensemble. En fait, tout le monde, tout professionnel de la petite enfance, qu'il soit ATSEM, qu'il soit enseignant ou qu'il soit de la PMI, qu'il soit qu'il appartienne à d'autres modalités de prise en charge de la petite enfance, tout le monde est délégataire d'une autorité parentale. Et ça, c'est l'enjeu le plus important. On ne fait pas n'importe quoi, évidemment, avec cette délégation de l'autorité parentale qui n'est pas un pouvoir, mais qui doit être géré au mieux. Voilà, donc cette culture commune est absolument nécessaire. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Eh bien, c'est pour assurer une mission renouvelée, on le voit bien, avec l'instruction obligatoire à 3 ans, qui prend son sens d'abord dans l'école, hein, parce que qui dit instruction peut supposer qu'elle ait lieu ailleurs, mais c'est bien de l'école dont il s'agit et qu'il faut privilégier, parce que c'est là évidemment que se construit l'identité individuelle et collective des futurs adultes. Voilà, donc pour bien agir, le premier levier, sans doute, c'est la bonne compréhension mutuelle de la spécificité française. Et j'ai indiqué qu'il y avait un point d'équilibre à trouver, parce que, comme vous le savez tous, et bien mieux sans doute que je ne pourrais encore le dire, toute l'histoire du système scolaire est traversée aujourd'hui par cette tension, hein, depuis le 19e siècle, par cette tension entre l'enfant et l'élève, entre finalement un enfant qui grandirait à son rythme et à sa mesure et qu'on laisserait grandir, hein, laisser grandir l'enfant à son rythme, comme le disait Pauline Kergomar, et puis de l'autre côté, l'élève, c'est-à-dire la forme scolaire, l'entrée dans les apprentissages, une sorte d'exposition dont il faut convenir du meilleur moment, mais une exposition aux apprentissages cognitifs. Et c'est cette tension qui, évidemment, a parasité un peu toute l'histoire de la maternelle, vous le savez bien. Au fond, d'un côté, les professionnels qui ont en charge la propreté, la sécurité de l'enfant, sa surveillance, qui le font manger et qui exécuteraient quelques tâches dites ancillaires. Et puis de l'autre côté, les tâches plus nobles, apprendre, transmettre, qui sont les tâches de l'enseignant. Et vous le savez bien, car nous avons tous lu beaucoup Pauline Kergomar, j'y reviens, Pauline Kergomar qui prêtait à la maîtresse ce rôle d'être une mère intelligente et dévouée, mais quand elle disait ça, elle, évidemment, elle n'accordait pas a priori une place essentielle à la femme de service qui, à l'époque, dans les salles d'asile, n'était là qu'accessoirement, bien que ce ne fût pas facultatif longtemps, mais c'était tout de même une suspicion a priori pour l'inspectrice générale ou la première des inspectrices générales des écoles maternelles que de faire confiance à la femme de service dans l'acte de transmettre. Aujourd'hui, il en est tout autrement, évidemment, et on peut s'en réjouir. Alors, petit détour par l'histoire, si vous le permettez. Nous sommes là dans l'antichambre d'une des salles d'asile à la fin du 19e siècle. On est en pleine période pasteurienne, l'hygiène est très importante, vous le savez, c'est même au cœur de l'éducation des enfants, un peu rigide, de l'époque. Alors on passe au lavage des mains. Vous avez tous vu ce genre de gravure ou ce genre de photographie, naturellement. Juste vous poser une petite question, qui aide la petite fille ou le petit garçon, je ne sais trop d'ailleurs, parce que c'est difficile avec les costumes d'époque, mais qui l'aide à mieux maîtriser l'acte du lavage des mains? Est-ce que c'est l'institutrice ou est-ce que c'est la femme de service? Eh bien, c'est la femme de service, en effet. Alors, ensuite, vous avez une autre photographie qui, cette fois, est prise à Levallois-Perret. On est dans une école, ancêtre d'une école d'application. Et même souci hygiéniste, on est au début du XXe siècle, au tout début du XXe siècle, et vous avez là une adulte qui apprend une enfant à se doucher ou à se laver. qui est cet adulte ? Est-ce que c'est une femme de service ou est-ce que c'est une institutrice ? Eh bien, ça n'est pas une femme de service, c'est une institutrice débutante, puisque nous sommes dans une école d'application, et c'est l'institutrice qui est chargée d'effectuer l'acte noble de l'éducation à l'hygiène. Voilà donc la confusion des genres, la complémentarité. Alors là, nous sommes à Lyon, petit voyage dans l'espace maintenant, à la Guillotière, en 1895. C'est une école maternelle. C'est une école maternelle dont vous voyez alors l'exceptionnelle modernité, puisque c'est un exemple de parité absolue, où on a une fille et un garçon en alternance sur les bancs, et où chacun dispose déjà d'une tablette. Bon, en réalité, c'est une ardoise, bien évidemment. Mais vous avez vu déjà l'ambition qui est portée sur les graphismes du tableau, l'écriture modèle, on est en maternelle. Alors, je ne saurais dire si c'est une petite section ou une moyenne section, probablement une moyenne. Bon, et on voit bien que le modèle porté par l'école normale d'institutrice à l'époque, c'est déjà ce modèle d'une classe autobus avec un conducteur à l'avant et évidemment des rangées d'élèves bien organisées. Et déjà, on avait pour l'époque des témoignages tout à fait intéressant à relire aujourd'hui. Alors j'ai repris là l'extrait d'un ouvrage que vous connaissez sans doute, qui est un ouvrage de Léon Frappier qui s'intitule « La maternelle », paru en 1904, publié en 1904 et qui a reçu le prix Goncourt, qui a d'ailleurs été transposé 3 fois au cinéma avec d'éminents réalisateurs. Et voilà ce que Léon Frappier fait dire à l'héroïne de son roman, qui est un roman naturaliste de type Zola, hein, qui dépeint la misère sociale, et il fait dire donc au personnage principal, qui s'appelle Rose, et qui est femme de service dans une école de Ménilmontant, il lui fait dire, la normalienne donnait un simple exposé historique, la normalienne, voyez le mépris du propos, superficiellement tous les enfants avaient l'air aussi absorbants, aussi bénéficiant, mais à y fixer mon attention, je voyais les phrases tomber différemment sur eux. Un dépit irrésistible me crispait. Cette forme de parole ne s'adapte pas à cette forme de tête. Quel malheur quand la normalienne ne pénètre pas dans les ténèbres des petites intelligences, ou quand elle ouvre aux enfants un aspect trop compliqué de son intelligence. À elle, on croirait voir quelqu'un offrir de bonne foi des couleurs à un aveugle et attendre qu'il choisisse. Voilà ce que la femme de service dit de l'institutrice. C'est pas une littérature que je vous conseille parce que il y a très peu de talent littéraire dans ce genre d'ouvrage, mais ça faisait quand même la délectation d'un certain nombre de lecteurs. Il s'est vendu à 500 000 exemplaires. Et voilà la transposition cinématographique de ce roman. Le personnage principal, c'est Rose, on la voit là, donc la photo a coupé le seau et la serpillière, puisqu'elle est agenouillée par terre en train de faire le ménage, au milieu des rangs de la salle de classe. Le personnage que vous reconnaissez sans doute, enfin l'acteur, l'actrice que vous reconnaissez sans doute, pour les plus anciens, parce que les autres peut-être ne connaissent même pas son nom, il s'agit de Madeleine Renaud, qui à l'époque était fort jeune. Alors, voilà ce que dit Rose. Et alors, étant agenouillée entre un banc et une table à nettoyer par terre, j'aspire comme une bouffée de vérité. La leçon a le tort d'être servie pareil à tous, aux forts, aux faibles, aux gentils, aux affreux. Alors, je vous passe évidemment la sémantique. Mais ça veut dire que c'est une dénonciation de l'enseignement vertical, une dénonciation de l'absence de différenciation pédagogique. La morale, c'est le bien de l'individu considéré dans son milieu. Donc on a déjà des enjeux de justice sociale dans ce type de littérature, de toute évidence. Chaque nature et chaque situation a la sienne. Et maintenant j'écoute ces malheureuses maîtresses verser leur médication collective sans souci ni de tempérament, ni de famille, ni de conditions économiques. Voilà donc la photo principale du film. Alors là, c'est un petit lapin blanc que Rose a apporté dans son panier. à la suite d'un malentendu parce que le recteur l'a croisé dans le couloir de l'école lors d'une visite impromptue et il l'a prise pour une institutrice parce qu'elle développait un langage raffiné. En fait, elle a commencé des études universitaires et pour des raisons d'un destin funeste, puisque son père est mort, etc., elle n'a pas pu réaliser le mariage qu'elle souhaitait. Elle se retrouve donc contrainte à faire des travaux ménagers dans une école, mais elle a un niveau d'instruction. Et donc le recteur le repère et lui dit « Demain, je reviendrai, apporter donc un lapin blanc ». Et elle apporte un lapin blanc, elle, femme de service, mais qui est supposée être l'institutrice. C'est toute une symbolique, c'est pour ça que j'ai pris ces images aujourd'hui, ces références. Ce symbolique du rapprochement et de la consubstantialité en fait, des deux métiers. Et elle apporte ce lapin blanc et tous les élèves se précipitent et évidemment commencent à parler du lapin. Comme un animal familier qu'on peut caresser, etc. Est-ce que je peux toucher le lapin, etc. Et puis ensuite intervient le recteur qui propose à ces enfants très miséreux, puisqu'ils appartiennent à une classe populaire très Ménilmontant, propose à ces enfants de se découper le lapin pour le manger et de partager équitablement les morceaux du lapin en autant que de part qu'il y a d'élèves. Et comment faire ? Donc on entre dans la résolution de problèmes. Et évidemment, le recteur est conspué, on le traite de salaud, salaudré, etc. Je ne veux pas, non, on ne tuera pas le lapin. Et alors, il y a tout un passage, évidemment, mémorable du film. Tout ça pour dire que voit l'enfant entre la femme de service, l'institutrice. Une femme de service, ça peut, comme le roman le montrait, avoir un niveau de diplomation élevé. Et on en voit aujourd'hui chez les ATSEM, qui ont un niveau de diplomation élevé, hein, et plus encore que le CAP d'ailleurs, bien entendu. Ce sont deux adultes que voit l'enfant, un enseignant, une femme de service. Il grandit auprès d'eux, mais peut-il faire la différence ? Sûrement pas, puisque comme on le sait bien, les sphères du développement du petit enfant, sphères du développement physique, développement cognitif, développement affectif, social, émotionnel, ces sphères sont absolument inséparables. Et d'ailleurs, lorsqu'il est à la crèche, dans un autre mode de garde collective, fait-il la différence ? Et les parents font-ils la différence lorsque le soir, on a changé la couche de leur enfant, on lui a appris à jouer et on l'a fait manger ? Est-ce que c'est la psy ? Est-ce que c'est la directrice de la crèche ? Est-ce que c'est l'éducateur du jeune enfant ? Il ne le sait pas. Le père ou la mère ne le savent pas. Eh bien, à l'école, c'est vrai que le rapprochement de ces identités professionnelles, comme dans d'autres modes de garde de la petite enfance, doivent pouvoir non pas se confondre, parce qu'il faut que chacun ait une professionnalité assurée, mais puisse être compris, conjugué, non pas juxtaposé, mais harmonieusement, évidemment, harmonieusement entretenu. Voilà, donc... Il manque de sensibilité, le clavier. Je suis désolé, j'alterne parce qu'il ne marche pas. Donc peut-être que ça irait mieux avec la souris, mais bon. Donc évidemment, le deuxième levier, c'est comprendre le sens de l'instruction à 3 ans. Là, je n'y reviens pas puisque le directeur général a déjà présenté les choses. C'est un acte essentiel de justice sociale, ou si tu veux, Sabine, peut-être. Voilà, donc quelques chiffres. Hein. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, 27% seulement des enfants de 3 à 6 ans étaient scolarisés. Aujourd'hui, avec la loi sur l'instruction obligatoire, ce seront évidemment 100% des enfants qui sont visés. C'est 4 fois plus. Il y a là une petite massification qui est propre à l'école maternelle, évidemment, et dont il va falloir tenir compte, parce que les enjeux, en termes d'assiduité, en termes de gestion du temps de l'enfant, de la sieste, etc., surtout pour la petite section, hein, sont des enjeux évidemment déterminants. Alors, l'abaissement de l'âge de l'instruction, bon, est une décision politique au sens noble du terme, hein, qui évidemment a une résonance que vous connaissez, un sens particulier et urgent. Aujourd'hui, 97% des enfants sont scolarisés à 3 ans, on l'a dit, mais de façon tout à fait imparfaite, selon les territoires, selon évidemment la catégorie socio-professionnelle des familles, avec une assiduité parfois hasardeuse, notamment en toute petite section. Et ce qui favorise la réussite scolaire précoce, c'est aussi la manière de prendre en charge l'enfant dès le plus jeune âge. Donc ce tremplin vers la réussite vise à lutter contre les inégalités, c'est évident. Je le disais tout à l'heure, je ne le reprends pas sur les décrocheurs. Et le directeur général a rappelé ces 30 millions de mots d'écart qu'il y a entre les catégories socio-professionnelles à l'entrée à la maternelle. Et cette maternelle, évidemment, est celle de l'épanouissement et du langage. Et c'est vrai, et dans l'intelligente conjugaison des deux termes qu'il faut évidemment s'inscrire, l'immersion langagière dès les premières années, donc la conscience phonologique, je vous passe parce que tout cela, vous le savez bien, mais pour s'épanouir, il faut pouvoir, parce que maîtriser une langue, ça n'est pas juste maîtriser un outil de communication, c'est aussi à terme maîtriser un outil de rêve, un outil d'évasion et un outil de reconstruction du monde. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on se retrouve à quatre dans une chambre au 10e étage d'un HLM, quand là, on n'a que des mots pour s'évader, on a déjà ça, et c'est extrêmement important pour pouvoir agir dans la société. Voilà, alors je n'ai pas résisté à la tentation de juxtaposer ces deux images, parce qu'un petit peu comme je l'ai fait tout à l'heure pour la fin du 19e siècle, je vous le fais pour l'école du 21e siècle. Maîtriser la langue et s'épanouir ensemble. Vous avez sur la partie gauche de la diapositive un bac à sable posé sur une salle de, sur une table ronde. On filtre du sable à travers un entonnoir. Ça doit vous étonner parce que c'est pas propre aux conditions d'hygiène que l'on rencontre dans nos écoles maternelles. Alors, je vous rassure tout de suite, ça n'est pas en France. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de faire une mission au Liban le mois dernier dans le cadre de l'AEFE et la scène se déroule dans un établissement français à Beyrouth. Mais c'est intéressant parce que j'entre dans la salle de classe et je vois cette dame qui filtre du sable dans l'entonnoir avec des enfants qui ont 4 ans à peu près et s'exprime de façon libre et absolument impeccable d'ailleurs sur ce sable qui est filtré. Et la dame invite les enfants à s'exprimer, à parler, à l'oral. Alors on dit, ah, les enfants disaient, ça pleut, on dirait de l'eau. Alors, ah bon, mais es-tu sûr que le sable et l'eau soient la même chose, etc. On en vient à parler de liquide, de solide. On désigne les ustensiles de cuisine qui sont posés, etc. là-dedans. On transpose avec ce qu'on fait sur la plage. Un univers langagier extrêmement riche. Dans le même temps, à droite, on a une autre personne qui est chargée de faire dessiner les enfants. Et c'est un exercice sur le vivre ensemble. Puisqu'on a un public arabophone, un public francophone, et l'idée est de mélanger du bleu et du jaune pour arriver à faire du vert. Alors on a évidemment immanquablement des enfants qui mélangent diversement la quantité de bleu et la quantité de jaune, et qui certains disent « Mais maîtresse, j'ai pas la même couleur que mon copain ou ma copine, parce que j'ai du vert, il est plus clair. » Et l'autre dit « Il est très très foncé, il se rapproche du bleu. » Et en fin de compte, la personne dit « Mais ça n'est pas important, c'est toujours du vert. » Donc, évidemment, c'est un message symbolique. Mais qui est à gauche, qui est à droite? Alors, à gauche, allez, dites-moi. Ça, c'est plutôt l'enseignante, et puis à droite, ça serait plutôt alors, ce qu'on n'appelle pas ADSEM, mais ce qu'on appelle aide jardinière dans les écoles libanaises, c'est-à-dire quelqu'un qui, un petit peu comme chez nous, est chargé d'assurer une activité manuelle un peu salissante et puis de faire le ménage après. Eh bien, c'est exactement l'inverse. Voilà l'aide jardinière à gauche au bac à sable et voilà l'institutrice ici. Et elles ont préparé la séquence pédagogique ensemble. C'est-à-dire que le répertoire des mots, du champ sémantique à employer pour l'exercice du filtrage du sable, l'enjeu symbolique de la leçon et le message qu'il faut en retenir sur le mélange des couleurs a été aussi préparé conjointement, évidemment. Et au bout d'un moment, les deux ont changé, c'est-à-dire l'une s'est occupée du groupe de dessin et l'autre est venue s'occuper du groupe du bac à sable. Voilà comment on a tourné, comment... Alors, tout ça, ça peut paraître idyllique, évidemment, parce que les aides jardinières au Liban ont un niveau qui est au moins bac technique, éducation de la petite enfance, avec une initiation à la littérature enfantine, à la plasticité cérébrale, à la psychologie enfantine, etc. Voilà. Donc, mais c'est un enjeu de formation. Voilà pourquoi je le dis, parce qu'on est en train de s'interroger ensemble sur les différents contenus possibles d'une formation des ATSEM. Eh bien, on peut prendre évidemment à l'étranger un certain nombre de modèles, sans comparer et sans penser qu'ils sont plus vertueux que ce que nous connaissons. Mais il est clair que il faut élever le niveau de professionnalité aujourd'hui des ATSEM, et il faut que les maîtres ou les maîtresses acceptent aussi de construire ensemble des séquences pédagogiques.
Et donc, évidemment, dès lors où on imagine cette formation continue, conjointe, qui va permettre de construire ce partenariat, puisque pour construire ce partenariat entre l'ATSEM et le professeur des écoles, je crois qu'il y a déjà un premier point très important, c'est déjà se connaître, mieux se connaître pour mieux travailler ensemble. Et donc mon propos va s'articuler effectivement dans un premier temps pour revenir sur des choses que vous connaissez bien, c'est-à-dire l'évolution du statut des ATSEM, mais je crois que l'introduction qu'a faite Lionel, notamment montrant la relation entre la femme de service et l'institutrice, on peut aussi imaginer qu'aujourd'hui l'ATSEM, quand elle voit intervenir un professeur des écoles, elle se dit mais pourquoi ces choix? Et donc je pense qu'il y a des choses qu'il faut pouvoir rendre explicites en regard du travail qui se fait conjointement dans la salle de classe ou même en dehors de la salle de classe. Donc c'est important de créer les conditions nécessaires aux coopérations favorables à la fois à l'accueil et aux apprentissages. Donc moi, je vais faire un retour sur l'évolution donc de notre CAP Petite Enfance qui a été créé en 91 et que vous devez peut-être tous bien connaître, mais l'évolution très importante de la rénovation, de la réingénierie du diplôme dans un contexte un peu plus large. Tout à l'heure, on a parlé des métiers de la petite enfance. Ce CAP, il n'est pas complètement dédié à former que les futurs personnes qui vont passer le concours d'ATSEM. Donc, revenons un petit peu sur les éléments de contexte donc, qui ont été aussi ceux qui ont présagé aux travaux que nous avons faits sur la mission sur les ATSEM. Donc, je ne reviens pas sur l'ordonnance de 1838 et sur la femme de service, puisque Lionel en a largement parlé, mais je voudrais simplement vous montrer l'évolution de la place de ces personnels au sein de nos établissements. Donc, l'arrêté de 1958, on précise bien, on n'est pas encore sur les ATSEM, on est sur les ASEM, agences spécialisées de l'école maternelle, qui assiste le personnel enseignant. Et là, on est vraiment sur une dimension d'hygiène et de mise en état donc, des locaux et des matériels. Les ATSEM, donc, en 92, et vous voyez là la cohérence avec la création dans le calendrier de notre CAP Petite Enfance, là, assiste le personnel enseignant pour l'animation, l'hygiène et la mise en propreté donc, des locaux et du matériel. Et apparaît la notion de participation à la communauté éducative. En 2018, là je crois qu'il faut qu'on revienne sur ce point, c'est directement en lien aussi avec le rapport que je pense vous avez lu, qui a été aussi présenté donc aux assises de la maternelle, on a un décret du 1er mars, l'article 2, qui vraiment donc fait évoluer le statut, et je voudrais qu'on le reprenne ensemble parce que c'est vraiment là aussi en lien avec notre rénovation du CAP Petite Enfance dont l'arrêté est sorti le 22 février 2017 et a été modifié le 22 août 2018. Donc un travail complètement en synergie qui montre aussi que les ATSEM sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants des classes maternelles ou enfantines, ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel. Donc on retrouve cette fonction donc d'hygiène, d'entretien, mais on va avoir là une autre fonction qui est vraiment mise en exergue dans le deuxième paragraphe. Donc ils appartiennent à la communauté éducative, ils peuvent participer. Et ça, c'est important, et vous allez voir le lien après avec l'évolution de notre référentiel donc du CAP Petite AEPE, donc accompagnant éducatif petite enfance, à la mise en œuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignants. ça me paraît être un point à souligner, et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers. On a renvoyé, vous avez tout ça dans le rapport, hein, donc je ne reprends pas, mais ce « en outre », pour nous, il était très important, hein, et c'est pourquoi on a renvoyé ça au troisième paragraphe. Ils peuvent être chargés de la surveillance des enfants. Donc, il y a le, c'est, ils peuvent, hein, là. Donc, toujours ce verbe qui est important à souligner. Donc, des classes maternelles ou enfantines dans des lieux de restauration scolaire. Ils peuvent également être chargés en journée des missions prévues en premier alinéa de l'animation dans le temps de récréation et les accueils, le temps périscolaire et les accueils de loisirs. Alors, qu'est-ce qui croise complètement avec l'évolution de notre CAP petite enfance ? Donc, je vais revenir là-dessus. C'est que dans les enjeux de la rénovation du CAP petite enfance, c'était vraiment développer une professionnalité de ces titulaires du diplôme en étant sur des compétences qui évoluent vers une dimension éducative renforcée dans la prise en charge des enfants et un positionnement professionnel adapté aux différentes situations. Le diplôme a été rénové. Alors, je vais faire un petit point sur comment se met en place la réingénierie d'un diplôme professionnel. C'est ce diplôme... Il est entré en rénovation puisque nous avons une demande et une note d'opportunité de la Direction générale de la cohésion sociale. C'est un diplôme donc qui est bien un diplôme éducation nationale, mais qui croise avec d'autres diplômes de la petite enfance pour lesquels nous intervenons également, puisque on a parlé aussi du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants. Là, qui est un diplôme co-signé donc avec le ministère des Affaires sociales et de la Santé. Cette réingénierie demandée par la Direction générale de la cohésion sociale, elle s'inscrit dans un plan pour les métiers de la petite enfance. Donc tout à l'heure, Lionel a bien dit qu'il fallait avoir une vision globale sur les professionnels de la petite enfance, parce que ce CAP, il forme des professionnels qui interviennent sur une dimension d'âge, pas 3-6 ans, mais 0-6 ans. Et donc, c'est important d'avoir en tête que tout ce travail autour du plan pour les métiers de la petite enfance, avec des développements de compétences professionnelles, bien spécifier quels que soient les niveaux, et puis aussi la création de parcours pour ces professionnels, et qui était pour nous une étape importante pour fluidifier donc le passage d'un niveau à un autre et donc de gagner en compétences. Et ce plan métier s'est prolongé dans un cadre un peu plus large intitulé « Plan d'action de la petite enfance ». Et vraiment, ce plan d'action avait pour objectif de donner une nouvelle impulsion à l'ensemble du secteur de l'accueil du jeune enfant, et qui, pour nous, a été quelque chose qui a été complètement corrélé à nos réflexions, à nos auditions avec les professionnels du secteur, pour identifier donc les activités professionnelles et les compétences donc du futur professionnel. Donc l'ambition de la rénovation de ce CAP Petite Enfance, c'est de positionner ce diplôme comme premier niveau de qualification de la filière Petite Enfance et donc de rendre plus employables les titulaires de ce diplôme, notamment en établissement d'accueil des jeunes enfants. Puisque aujourd'hui, on voit bien qu'on a trois secteurs dans lesquels on peut... Alors pardon, je vais le faire. Voilà. Trois secteurs dans lesquels le titulaire du CAP Petite Enfance peut exercer son activité. École maternelle ou accueil collectif pour mineurs. Établissement donc ou service d'accueil collectif des enfants de moins de 6 ans. Et puis... Bien sûr, on l'avait auparavant et c'était quand même la majeure partie de nos élèves et de l'employabilité, c'était donc la garde à domicile. Mais il a donc fallu pour nous travailler beaucoup sur donc les évolutions pour répondre aux exigences dans le cadre de la refonte de ce CAP Petite Enfance et notamment c'est renforcer la continuité de la prise en charge des enfants de 0 à 6 ans, faire de ce diplôme bien sûr un diplôme de base Et les enjeux, c'était vraiment aussi de prendre en compte toutes les évolutions de la recherche par rapport aux besoins de la petite enfance en termes de développement dont on vous a parlé. Et donc, pour nous, ça a été renforcer les connaissances en matière de développement de l'enfant, les besoins psychomoteurs et psychoaffectifs. Donc, les compétences en matière de gestion de groupe, avec la prise en compte des particularités de chaque enfant. Donc, vous voyez, ça fait écho à ce que disait en introduction Lionel, c'est-à-dire une approche différenciée du groupe, selon les besoins de chacun. Prise en compte des particularités de chaque enfant. Et le positionnement professionnel a été effectivement un des points vraiment d'attention dans l'écriture, à la fois des compétences et des savoirs associés. Et puis, d'autres axes aussi ont été pris en compte. C'est notamment la prise en compte de l'évolution de la famille et les conséquences des ruptures familiales, la dimension interculturelle, la sensibilisation à la prise en charge de l'enfant en situation de handicap. J'insiste sur le terme sensibilisation. On est au niveau 5, enfin maintenant niveau 3. Donc, on est sur une formation qui se fait en 2 ans. Ou moins selon le parcours antérieur, effectivement, de l'élève ou de l'adulte en formation. Donc c'est important, là aussi, d'avoir ça en tête par rapport aux formations qui pourront être mises en place donc, entre ATSEM et professeurs des écoles. Donc vous voyez, là, je reviens sur les référentiels de compétences, puisqu'on a 3 grands secteurs d'activité dans lesquels les titulaires du CAP accompagnant éducatif petite enfance pourront intervenir. On a donc identifié des compétences communes aux différents contextes d'exercice professionnel et puis des compétences spécifiques donc au secteur d'activité. Pour ce qui est des compétences communes, on a des compétences communes transversales que je ne lirai pas, hein, puisqu'elles sont affichées ici, et des compétences communes de réalisation. Mais ce qui m'apparaît très important pour nous ce matin, c'est d'entrer dans ce qui est en lien avec l'école maternelle. On a identifié 2 compétences très spécifiques. C'est assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant. Donc il y aura tout un travail qui sera fait donc, à la fois en formation dans l'établissement, mais aussi en période de formation en milieu professionnel. Donc, les enseignants vont peut-être être sollicités pour accueillir dans leur classe, pendant la formation initiale, des futurs titulaires du CAP AEPE. Et dans le référentiel, vous y accéderez facilement. Vous retrouverez les activités qui peuvent leur être confiées, les indicateurs d'évaluation et donc les savoirs sur lesquels ils auront travaillé donc, au cours de leur formation initiale. Et puis, bien sûr, on retrouve assurer des activités de mise en état des matériels et locaux en école maternelle. Sur ce point-là, on n'a pas d'évolution majeure.
Merci Sabine. Je reprends la parole pour vous ramener dans le premier domaine professionnel d'exercice, c'est-à-dire celui de l'école maternelle, pour peut-être faire quelques remarques relatives aux apprentissages et à l'épanouissement. Apprentissage donc du langage essentiellement, mais aussi à travers un certain nombre de gestes professionnels qui étaient propre à la maîtresse, propre à l'institutrice et qui pourrait être partagé par les ATSEM, puisque l'évolution majeure, c'est bien la participation des ATSEM à la mise en œuvre des activités pédagogiques. Il ne s'agit pas de les concevoir, ce qui reste l'apanage du maître, mais de participer à la mise en œuvre des activités pédagogiques, puisque ce sont les termes du décret. Alors, évidemment, aux côtés des professeurs, les ATSEM contribuent activement à construire l'identité de l'enfant à travers toutes sortes d'initiatives qu'il peut prendre. Et en particulier, aucun enfant n'étant semblable à son prochain, chacun évolue à son rythme, on le sait bien, mais les connaissances et les apports de la recherche, en particulier dans le domaine différents temps de l'enfant et des différents rythmes d'acquisition des apprentissages doivent pouvoir être partagés. C'est une, il faut, je pense, que les ATSEM soient totalement acculturés aussi à une partie des apports aujourd'hui de la recherche en termes de plasticité cérébrale. Hein. Naturellement, il faut partager ça avec la maîtresse. En termes de, alors, sans entrer dans le détail hein, de l'archéocortex, du néocortex et du paléocortex, et où siègent toutes les émotions, etc., la mémoire de travail, la mémoire à long terme, etc. Mais et encore que. Parce que je relisais récemment un certain nombre de débats relatifs à des expériences de classe qui sont souvent sujets à frustration. Les ASEM qui disent « j'ai pas été associé, on m'avait pas expliqué ce que je devais faire, on m'a confié la mise en œuvre d'un jeu, par exemple ». Eh bien, ce qu'on constate, c'est souvent que les ASEM ont tendance à simplifier lorsque les enfants jouent. Alors qu'en réalité, il faut complexifier. Parce que l'intérêt du jeu, par exemple, c'est d'entrer dans une résolution de problème. L'ATSEM, lorsqu'on lui confie un atelier de jeu, ne peut laisser que les enfants jouer entre eux. Or, on le sait tous que la clé pour l'apprentissage intelligent en maternelle, c'est que les enfants jouent avec l'adulte. Alors, la maîtresse, souvent, a l'apanage de ce jeu, mais il faut que l'ATSEM puisse le faire, parce que si l'enfant ne se confronte pas à un adulte, il ne se confronte pas plus fort que soi. Donc il ne développe pas de stratégie qui lui permette de se dépasser et de gagner un jour. Donc il stagne. Alors pour pouvoir comprendre le sens d'un jeu collectif, d'une interaction langagière, d'une prise d'initiative à un stade donné du développement psychocognitif de l'enfant, il faut quand même avoir quelques connaissances un peu scientifiques. Combien, dans les témoignages que je relisais récemment, combien de déplorations n'ai-je pas lu sur le fait, par exemple, que les ATSEM voient l'enfant prendre une paire de ciseaux avec la main droite lors d'un exercice de découpage, mais ont repéré qu'il avait plutôt tendance à prendre le crayon de la main gauche. Alors, droitier, gaucher, on en reste là. Alors qu'il faut partager, évidemment, cette appréciation-là. Les temps d'accueil, qui sont des temps de relations directes avec les familles, où se font des confidences, où l'on apprend parfois des choses graves sur ce qui se passe dans les familles, ne sont pas forcément partagés avec les enseignants. Alors, ce sont parfois des éléments capitaux d'information pour le développement de l'enfant que détiennent les ATSEM. Mais c'est l'histoire de la co-tutelle. À qui dois-je en référer si j'apprends quelque chose de grave? Est-ce que j'en réfère à mon employeur qui est le maire, ou est-ce que j'en réfère à mon employeur fonctionnel ou celui qui détient une autorité fonctionnelle sur moi, qui est le directeur d'école? Bon, tout ça, évidemment, il faut le résoudre. S'agissant de la prise de parole, bon, vous le savez bien, l'affectivité compte beaucoup dans la capacité de l'enfant à s'exprimer. Comme le souligne Boris Cyrulnik, le savoir n'est transmissible qu'à l'intérieur d'un cadre éducatif. Je reprends ses propos. Hein. Le savoir n'est transmissible qu'à l'intérieur d'un cadre affectif qui passe avant tout par la parole. Cette parole humaine a un pouvoir de stimulation de l'affection et joue un rôle dans les performances abstraites. Bon, c'est extrêmement important. Toute la théorie de l'attachement, qui est parfois étrangère hein, au niveau de formation de certaines ATSEM, eh bien, il faut pouvoir en comprendre évidemment les ressorts et les mécanismes pour travailler dans un esprit de bienveillance. Donc les neurosciences, tout cet apport aujourd'hui de la connaissance est déterminant pour bien comprendre le travail à réaliser. Sabine ?
Oui, je voudrais rebondir sur les propos de Lionel. Là, on a un travail très important d'accompagnement de la mise en œuvre de ce nouveau CAP, accompagnant éducatif petite enfance, notamment sur les dimensions là, de développement à la fois psychologique, affectif, hein, et on parle de la notion d'attachement. On a un gros travail aussi sur l'inscription du futur professionnel, de son action dans le réseau des relations enfants, parents, professionnels. Et là, je crois que on a, nous aussi, un point de vigilance dans la formation initiale, mais vous le savez, que la formation continue des ASTSEM ne relève pas uniquement de nous et loin de là. Donc il y a tout un travail de partenariat aussi avec le CNFPT qui, je pense, est pensé et peut-être déjà conçu. Donc c'est vraiment important pour nous. Cette rénovation, elle est d'ampleur. Mais sachez aussi que le public que nous accueillons dans ces formations, il est peu important dans nos établissements, puisque ce sont souvent des formations qui dépendent d'institutions sur lesquelles nous n'intervenons pas, puisque des formations hors contrat. Et donc, on a l'intention, là, d'avoir un document ressources qui va accompagner la mise en œuvre de ce CAP AEPE. Et c'est vrai que sur tout ce qui est assistance pédagogique, nous travaillerons, là, en lien vraiment très rapproché avec le bureau des écoles, comme ça l'a été quand on a écrit ce référentiel où nous avons sollicité la DGESCO sur le bureau du premier degré pour pouvoir nous aider à être dans la justesse de nos écritures et du positionnement de la SEM par rapport donc aux professeurs des écoles. Mais là, pour nous, c'est vraiment cette rénovation de 2017-2018, une forte ambition de compétences socle pour ces professionnels de la petite enfance qui nécessitent, je crois, un complément en formation continue d'être réfléchi par rapport à ce secteur particulier qu'est l'école maternelle, puisque, comme je vous l'ai montré, on couvre un ensemble de structures qui est bien plus large.
Oui, merci pour ces précisions extrêmement importantes. Si nous insistons à ce stade, c'est précisément parce qu'il y a un enjeu de formation pour les collectivités territoriales et que, puisqu'on en détermine on détermine les enjeux pour favoriser les apprentissages, on sait bien que la formation sera une clé. Alors, j'en reviens à ma classe de petite section. Juste un exemple que je voudrais vous relayer. Quand un petit enfant arrive vers la maîtresse en petite section et qui tire sur son pullover en lui disant « Zesso », que fait la maîtresse? Elle a deux solutions. Ou bien elle entre dans une activité interactive langagière avec l'enfant qui lui permet de voir pourquoi l'enfant pose cette question. Elle lui dit « Que veux-tu me dire? Veux-tu me dire que si j'enlève ton pull, tu auras moins chaud ?» Ou alors elle a une autre solution, c'est de dire « Va voir la dame là-bas ». C'est l'ATSEM. Et l'ATSEM n'entre pas dans une interaction langagière, elle enlève le pull, l'affaire est jouée. Or, comme tout à l'heure avec l'exemple du sable et de la couleur verte, il faut préparer intelligemment toutes sortes de situations, problèmes qui peuvent survenir pour que l'enfant advienne correctement à travers ce petit détail symbolique qui est le ressenti de chaleur. Il vient, il tire son pull vert. Si l'ATSEM, comme la maîtresse, ont l'intention d'entrer dans une activité langagière, tout est gagné. Et alors à ce moment-là, l'une comme l'autre, est capable de dire « Tu as chaud parce que tu as ton pull vert, si je te l'enlève, tu auras moins chaud, est-ce que tu vas mieux maintenant ?» Et on entre dans un rapport de causalité, on emploie des connecteurs logiques, une qualité sémantique, un vocabulaire précis qu'on a préalablement répertorié. Et si le gamin a une chance un jour de pouvoir dire « Mon papa réparait la voiture au garage parce qu'elle était en panne », c'est parce que dans la petite section, à un moment donné, il a enlevé son pull grâce à quelques mots de vocabulaire et des connecteurs logiques de la maîtresse ou de l'ATSEM qui lui ont dit « c'est parce que je te l'ai enlevé que tu as moins chaud ». Voilà. Donc, c'est ça la conjugaison harmonieuse, mais ça se prépare, ça ne s'improvise évidemment pas, et c'est parce que l'une n'est pas délégataire d'une tâche ancillaire au profit de l'autre qui continue sa transmission noble, c'est parce qu'il y a une contribution active des deux qu'on va pouvoir effectivement y arriver intelligemment. Alors le dernier exemple que je prendrai, c'est celui des espaces interstitiels, des temps interstitiels dont meurt l'école maternelle. Vous le savez, tous ces temps d'accueil, de récréation, de pause pipi sont des moments d'éducation fondamentaux. Si l'ATSEM est seule à le faire, il faut qu'évidemment elle puisse avoir les moyens de comprendre ce qui se passe. Et ce dernier exemple, j'en aurai fini, hein. On a pris un peu de retard, faut s'arrêter, oui. Thomas, oui. Alors, donc ce dernier exemple Il y aurait, on avait de quoi tenir encore une heure avec Sabine, et c'est passionnant. Voilà, j'ai fait cette photographie le mois dernier. On est en France, hein, dans un département francilien. Je dis ça parce que c'est important par rapport à la conception architecturale de l'école. Vous avez des toilettes sans porte qui donnent directement dans la salle de classe. Vous connaissez ça par cœur. C'est censé favoriser évidemment l'aller-retour, l'autonomie, la responsabilité de l'enfant qui choisit d'y aller quand il veut, etc. Ce jour-là, tout le monde était enrhumé dans la salle de classe. Les enfants allaient faire pipi, entraient, ressortaient, ne se lavaient pas les mains. Ensuite, allaient au coin d'accueil où la maîtresse était en train de faire une comptine, comme tous les matins, avec l'ATSEM. Sauf que l'architecte n'a pas prévu une chose, c'est qu'évidemment la comptine ne peut pas se dérouler devant les toilettes ou les lunettes ouvertes, comme ça. Donc, la comptine se passe dans l'autre coin de la classe. La maîtresse et l'ATSEM tournent le dos. Et ça, c'est très intéressant, parce que je suis très à cheval sur les symboles, mais tournent le dos et ne peuvent pas faire autrement que de tourner le dos à cette porte ouverte sur les toilettes. La comptine se déroule. L'ATSEM est très participative à la comptine. J'étais avec une IEN. Comme les gosses ressortaient tous, les mains sales, pleines de pipi, étaient tous très enrhumés, c'est l'IEN qui les a mouchés. Eh oui. Et c'est normal. Il y a un défaut d'architecture majeur avec des bonnes intentions au départ, hein. Et alors ensuite, la maîtresse en vient au stade de la comptine à dire ben « Maintenant, on va se frotter les mains », parce que c'était un stade de la chanson. Alors on se frotte les mains comme ça. Quel est l'effet produit ? « Ah ben, ça chauffe !» Et alors la maîtresse dit ben « Montre-moi !» Et alors il y a tous les gamins qui arrivent et qui lui mettent la main sur la joue pour lui montrer que la main avait chauffé quand on les frottait une contre l'autre. Voilà, c'est pour vous dire à quel point c'était un peu une anecdote. On est dans le domaine du caricatural, mais... L'ATSEM et la maîtresse sont au travail, font bien les choses ensemble, sauf que, évidemment, il y a un problème majeur dans l'organisation physique du lieu, du local, et ça, il faut que la collectivité territoriale le sache, que l'architecte le prenne en compte. L'architecte n'est pas un pédagogue. Voilà, donc, dernière photo pour conclure, on est en 1909, une femme de service... qui n'a d'autres préoccupations peut-être que de prier le ciel que les enfants ne boivent pas trop de pinards présents dans les chopines, parce que on est à la cantine, on est évidemment avec des élèves de maternelle qui ont 3-4 ans, mais à l'intérieur de la chopine, il y a un peu de vin. Avec de l'eau qui coupe le vin, mais vous savez que c'est quand même qu'au début des années 60 qu'on a interdit l'usage de l'alcool à l'école pour les moins de 14 ans. Donc, l'ATSEM aujourd'hui a bien changé. Ça n'est plus celle qui prie au fond de la classe. C'est celle qui est associée à l'acte pédagogique. Merci de votre attention.